Voilà, nous sommes à nouveau réunis autour de son nom et autour de cette merveilleuse prière qui est au cœur de notre tradition, le Notre Père. Et nous abordons ici le centre de la prière, le cœur du cœur, si je puis dire, que ta volonté soit faite. Je pense qu'on peut affirmer que toute notre vie chrétienne tourne autour, je dirais, de cet astre qu'est la volonté divine. Le patriarche Enouda disait « Que ta volonté soit faite » est vraiment le concentré de toute la vie spirituelle. Et Jean-Yves Leloup, pour certains rabbins, mais aussi beaucoup de théologiens, c'est cette demande « Que ta volonté soit faite » qui est au cœur de la prière et qui inclut toutes les autres demandes. « Que ta volonté soit faite » est l'abrégé du Notre Père et introduit en nous les dispositions filiales justes. Donc je vous propose aujourd'hui de contempler cette demande centrale, le cœur du cœur, et surtout de la laisser descendre en nous, et surtout, de la mettre en pratique, parce qu'il n'y a que ça qui compte, la mise en pratique, pour ne pas qu'elle reste un vœu pieux. Vous savez qu'on fait beaucoup de vœux pieux, on dit beaucoup de paroles qui nous touchent à peine, qui nous effleurent, mais dans lesquelles nous n'entrons pas, et surtout que nous n'essayons pas, nous ne désirons pas mettre en pratique. Et nous disons par exemple, enfin moi c'est mon cas, combien de fois n'ai-je pas dit cette phrase de manière tout à fait distraite, mécanique, sans même penser à ce que je disais, sans y prêter la moindre attention, et surtout sans désirer que ma vie soit transformée par cette phrase. Et pire encore, en souhaitant qu'elle ne le soit pas. Parce que dans mon fort intérieur, je me dis parfois, sa volonté c'est bien, mais la mienne c'est mieux. Alors pourquoi une telle distraction et pourquoi un tel manque de conviction dans ma prière? Probablement par peur. Peur que sa volonté se réalise effectivement dans ma vie et ne vienne bousculer mon confort, mes certitudes, mes sécurités, mes idées. Ce qui me rassure un peu quand je prends conscience de cette attitude, c'est que je ne suis pas le seul et loin de là à l'éprouver. Même un grand spirituel, et maintenant on l'a consacré comme saint, on l'a canonisé, Monseigneur Jean de Saint-Denis, éprouve ce sentiment lui-même. Ça m'a tout à fait étonné de voir cet homme si courageux qui a consacré toute sa vie à l'Église, à la Sainte Trinité, à la prière, écrire ceci. Que signifient ces paroles que ta volonté soit faite? Sinon la reconnaissance existentielle que Dieu est plus intelligent et meilleur que nous. Vous me répondrez, c'est évident. Mais non, pas tant que vous le pensez. Dans le psychisme humain, elle n'est nullement évidente. Faisons une expérience curieuse, loyale. Remettons-nous à la volonté divine. Et aussitôt, une crainte surgit. Nous pensons, et si la main de Dieu était trop lourde? S'il nous demandait quelque chose au-dessus de nos forces? Et si? Trois petits points. Nous avons peur qu'il ne tienne pas compte de nos désirs, de nos petites volontés, de nos petites impossibilités. Que de fois dans ma vie ai-je évité de dire totalement « Que ta volonté soit faite » dans l'appréhension d'entendre Dieu m'ordonner aussitôt une action pénible, un effort psychique désagréable. N'a-t-il pas appelé Abraham à sacrifier son fils unique? Alors si un grand évêque prophétique et courageux comme Monseigneur Jean, qui est vraiment un être exceptionnel, éprouve cette peur, cette appréhension, alors là, je me sens en bonne compagnie, ce qui n'est pas une raison pour m'arrêter là, bien sûr. Alors je propose aujourd'hui, en cette journée de silence et de prière qui ouvre la porte du carême, de nous arrêter à cette phrase essentielle et de la laisser descendre en nous, de la laisser s'enraciner dans notre cœur. Comme vous savez, des enfants à l'école primaire reçoivent une graine de haricot et un petit pot en terre ou de l'ouate mouillée, et on pose la graine dedans et on la regarde se développer. bien, je vous propose aujourd'hui d'être ces enfants à l'école primaire avec cette belle graine, que ta volonté soit faite. Le pot, c'est bien sûr notre cœur. Que ta volonté soit faite a été parfois exprimée d'une manière intéressante, sympathique et stimulante. Que ta volonté soit faite, une fête avec E, accent circonflexe. Et je pense que c'est en fait, en réalité, bien de ça qu'il s'agit. Une fête, une rencontre joyeuse avec notre Créateur, c'est-à-dire une célébration, une communion à laquelle nous sommes conviés. Et je me pose la question, un chrétien peut-il être fondamentalement triste alors qu'il se sait aimé de Dieu, alors qu'il est convié à des noces où il est non seulement un invité, mais il est lui-même la fiancée. Rappelez-vous la joie de Jean-Baptiste qui s'écrit « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la joie de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Et saint Paul, dans ce célèbre passage de l'Épître aux Philippiens, nous le chantons d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'année, s'écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Alors comment faire place à la tristesse fondamentalement? Je ne dis pas que notre âme n'est pas triste, souvent elle l'est, mais fondamentalement, cette joie est profonde et sous-jacente. Parce que le Père veut faire de nous plus que des amis. Il veut faire de nous ses enfants, à l'image du Fils unique. Des enfants qui nouent avec lui, nous l'avons dit au départ du commentaire de cette magnifique prière, qui veut faire de nous, qui veut nouer avec nous plutôt une relation filiale, une synergie, une symbiose. Et pour cela, nous ne devons surtout pas avoir de l'homme une conception médiocre, petite, rabougrie, dévalorisante. Car malgré les apparences, malgré notre regard qui est souvent déformé, nous sommes beaux et grands aux yeux de Dieu. Le psaume 8 que nous avons souvent cité le rappelle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et les fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Voilà l'opinion que le Père et la Divine Trinité a de l'homme. Nous sommes couronnés de gloire et de splendeur. Mais en tout cas, nous sommes destinés à l'être. Alors si nous nous croyons faibles, perdus, désorientés, tristes, sans perspective, comment ne pourrions-nous pas nous connecter à l'enthousiasme, cet enthousiasme du psaume 8 qui nous met en route et qui soutient notre marche vers la vie divine? Et Monseigneur Jean, encore lui, nous dit « Comment accomplir la volonté de Dieu en se voyant petit ?» La première attitude, dit-il, consiste à être idéaliste, c'est-à-dire à désirer quelque chose de grand. Nous sommes enfants d'un Père céleste et nous ne sommes pas des êtres, comme dit-il, des vers attachés au sol. Élévation de l'âme, grandeur, idéalisme, conscience de la filiation divine, voir grand la vie, dit-il. Eh bien, je nous invite aujourd'hui, et tous les jours d'ailleurs, mais on peut commencer par ça aujourd'hui, à voir grand la vie, à la voir selon les yeux de Dieu. À nous voir selon les yeux de Dieu. Car en réalité, interrogeons-nous, puisque nous demandons de faire sa volonté, ou en tout cas nous l'évoquons, quelle est la volonté de Dieu? Et évidemment, ça suscite beaucoup de questions et nous allons tourner autour de ces questions toute la journée d'aujourd'hui. D'abord, pourquoi demander que cette volonté se réalise plutôt que la mienne? C'est une bonne question. Et puis, quelle est cette volonté? Et encore, pouvons-nous connaître cette volonté? Alors que pour la plupart des hommes, et parfois pour nous aussi, peut-être souvent même, Dieu semble inconnaissable, lointain, abstrait, absent. Et peut-être même parfois totalement muet, et que l'on ne perçoit pas ce qu'il désire, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut pour nous, ce qu'il attend de nous. Et je vous propose de prendre comme guide à la fois les évangiles et saint Paul pour répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu souhaite pour nous? Eh bien, quelques passages parmi d'autres. La volonté du Père, dit le Christ, c'est qu'aucun de ses petits ne se perde. Les petits, c'est nous. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de Dieu, dit saint Paul, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est de rassembler toutes choses dans le Christ. Ou encore, une parole que nous citons dans notre liturgie, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut le salut de tous les hommes et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Si nous prenons les différents mots importants de ces quelques citations, qu'aucun ne se perde, que nous ayons la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est de nous ressusciter, c'est de nous sanctifier, c'est de nous rassembler, c'est de nous sauver, c'est que nous le connaissions. Qu'y a-t-il de menaçant dans ces phrases? Pourquoi tant de personnes ont-ils peur de Dieu? Notre Père Céleste ne veut-il pas avant tout notre réalisation, notre bonheur, notre sanctification? Et la sanctification, nous l'avons abordée la fois dernière, c'est de se remplir des énergies sanctifiantes, des énergies divines. Saint Silouane et le Père Sophronie, que je prendrai aussi comme guide à plusieurs reprises dans ces exposés, je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques citations, mais vous en trouverez plus dans les feuilles que vous avez déjà pour certains. Le Père Sophronie dit « Dieu cherche l'homme pour lui donner non seulement la vie, mais bien plus encore, une surabondance de vie. » Et Silouane nous dit « Si les hommes connaissaient réellement l'amour de Dieu, alors ils s'abandonneraient entièrement à sa sainte volonté. » Si nous connaissions l'amour de Dieu, si tu savais le don de Dieu, dit le Christ à la Samaritaine, au puits. Et ici, saint Silouane continue encore, l'âme qui a connu en plénitude le Seigneur et qui a trouvé sa joie en lui, ne désire plus rien, ne s'attache à rien sur la terre. Si on lui offrait un royaume, elle n'en voudrait pas, car l'amour du Christ est si doux et rend l'âme si heureuse que même une vie de prince ne saurait la satisfaire. Étant promis à la vie éternelle en Dieu, je porte en moi un désir profond, une nostalgie, un désir fort, que les pères comparent à l'éros, un désir érotique, qui me pousse vers Dieu, c'est-à-dire vers cette vie en plénitude qu'il m'offre. Et nous portons donc en nous, pour le dire en termes plus modernes et presque informatiques, un programme dans notre profondeur. Et Grégoire de Naviance le dit, lui, en termes plus patristiques, « Étant une parcelle divine, je porte en mon sein le désir de la vie future. » Pourrions-nous imaginer nous-mêmes de telles promesses, qui paraissent insensées à l'égard d'une sage raison? Est-ce bien raisonnable, comme on dit? N'est-ce pas, comme l'écrit le philosophe Luc Ferry, « trop beau pour être vrai » Et ça m'a toujours frappé et touché dans Luc Ferry qui dit « Je trouve la foi chrétienne admirable, merveilleuse. Et malheureusement, je n'y crois pas parce que, dit-il, c'est trop beau pour être vrai. » Alors, est-ce que ça suffit quand c'est trop beau pour être vrai pour y croire? Moi, je ne le pense pas. Jean-Yves Leloup écrit, à propos de la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu en moi? Que veut le plus grand amour, c'est-à-dire le sien? Que je sois ce que je suis. Que tout ce qui m'arrive d'agréable ou de désagréable concourt à mon accomplissement, au devenir de mon être, de ma conscience. Que peut vouloir notre Père, sinon que nous devenions fils et père à notre tour? On peut traduire aussi fille et mère. Pas fille-mère, mais fille et mère. C'est-à-dire créer, puisque nous sommes fils et filles, et créateurs, capables de transmettre le don, dit-il. Nous sommes nés pour naître. Nous sommes nés pour être. La vie nous veut vivants. La vie, la conscience nous veut conscients. L'amour nous veut aimants. L'être nous veut bienheureux. Alors, je repose la question, pourquoi avoir peur? Pourquoi préférer à ces déclarations d'amour de Dieu notre petite volonté boiteuse, notre petite sécurité étriquée, nos petits projets dépourvus de souffle le plus souvent, nos désirs à courte vue? Pourquoi? Je me fais parfois l'impression d'un aveugle de naissance qui recouvrerait la vue, mais qui ne supporterait pas la lumière. Ou encore d'un prisonnier qu'on vient de libérer et qui ne supporte pas, qui est pris d'angoisse face aux grands espaces qui s'ouvrent devant lui. Malheureusement, comme vous le savez, il n'y a pas que la volonté de Dieu. Elle n'est pas la seule qui se dispute notre cœur. La tradition nous enseigne que trois volontés se partagent le cœur humain. Celle de Dieu, celle de l'homme et celle du démon. Et à notre époque, qui est déconnectée de la sagesse et de l'expérience de la tradition, notre époque oublie la volonté divine. Et même, je dirais, ne veut pas en entendre parler. Elle ignore aussi la réalité de la volonté démoniaque. Mon Dieu, monsieur, quelle pensée primitive. À quoi pensez-vous? Le démon? Ça fait très, très ancien. Mais notre époque, par contre, voue un culte sans limite et sans partage à notre volonté humaine, individuelle. Nous y reviendrons plus longuement. Or, la tradition nous enseigne que l'homme, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, se trouve au confluent de deux rivières qui coulent en lui. Notre cœur est un lieu comparable. Vous savez, quand on passe sur le plateau de Langres, à un moment donné, vous avez des panneaux sur l'autoroute, ligne de partage des eaux. Et donc, il y a des eaux qui coulent vers l'Atlantique, des eaux qui coulent vers la Méditerranée. Eh bien, notre cœur est exactement semblable à ce plateau de Langres. C'est une ligne de partage des eaux, entre la volonté divine d'une part, la volonté démoniaque de l'autre. Et donc, nous pouvons être irrigués par l'eau pure, vivifiante de la volonté du Père, ou être emporté par le torrent de la volonté démoniaque. Et il appartient à chacun de nous de choisir, car Dieu merci, c'est le cas de le dire, nous avons aussi une volonté. Et à chacun de nous de choisir la direction que nous allons suivre. Quel courant, sur quel courant embarquer? Et tout cela se joue dans mon cœur, à propos duquel la tradition enseigne deux choses fondamentales. D'une part, le cœur est le centre spirituel de l'homme, nous le savons tous. Et d'autre part, nous y pensons sans doute beaucoup moins, il est l'enjeu d'un combat incessant entre Dieu et Satan. Cette présentation peut sembler simpliste ou naïve à notre époque, même manichéenne, aux yeux de ceux qui ne sont pas sensibles au combat spirituel qui se livre en l'homme. Et pourtant, que le cœur soit symboliquement et spirituellement le centre névralgique de l'homme est confirmé par toute la tradition, y compris par la Bible. Vous trouverez ça, par exemple, dans le livre des Proverbes, dans le Siracide, dans Saint Paul, dans les Psaumes, etc. Je ne prendrai qu'une ou deux citations. La première est tirée de Vladimir Lossky, Théologie mystique. le cœur, dit-il, pour la tradition ascétique de l'Orient chrétien, il oublie de dire de l'Occident chrétien aussi, est le centre de l'être humain, de l'intellect et de la volonté. C'est le point d'où provient et vers lequel converge toute la vie spirituelle. Sans le cœur, qui est le centre de toutes les activités, l'esprit est impuissant. Sans l'esprit, le cœur reste aveugle, privé de direction. Et donc, cœur et esprit sont complémentaires. L'esprit et toutes les pensées de l'âme, dit-il, se trouvent dans le cœur. Et le Siracide, qui est un livre qu'on ne fréquente pas beaucoup, Siracide, il y a même des bibles protestantes, je crois, où il ne s'y trouve pas, dit « La racine des pensées, c'est le cœur. Il donne naissance à quatre rameaux, ce n'est plus partage des eaux ici, c'est quatre, comme les quatre fleuves du paradis. Le bien et le mal, la vie et la mort. » Et Saint-Exupéry, ce père de l'Église moderne, en tout cas dans le Petit Prince, et en tout cas pour cette citation, dit, vous le savez, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Malheureusement, comme je vous le disais il y a quelques instants, le cœur n'est pas que le réceptacle de la grâce. Il s'y déroule un véritable combat que la tradition évoque de manière unanime. Et donc, notre cœur peut être double, il peut être partagé. Par exemple, Saint Macaire d'Égypte dit que le cœur est une officine, donc une espèce de magasin, un laboratoire, une officine de justice et d'iniquité. C'est un vase qui contient tous les vices, mais en même temps, et heureusement, on y trouve Dieu, les anges, la vie, les apôtres, les trésors de la grâce. Voilà ce lieu du cœur humain qui, dit Evdokimov, le cœur humain, c'est un champ de bataille. Donc mon cœur est un champ de bataille entre Dieu et Satan. L'homme, c'est-à-dire je, suis visité par les anges et par les démons. Le cœur vit dans le paradis et l'enfer. Et ce caractère double, ambivalent du cœur humain, qui est ouvert à toutes les influences, à la fois bonnes et mauvaises, est comme une terre neutre, c'est-à-dire une terre qui est prête à être ensemencée de toutes sortes de graines et qui peut devenir soit une terre fertile, soit un désert. Et non pas un désert qui refleurit, mais un désert asséché, aride. C'est évoqué à de nombreuses reprises dans la Bible. Pour le dire plus simplement et pour résumer, nous sommes soumis en permanence à deux volontés contraires. La volonté vivifiante de Dieu et la volonté destructrice du démon. Mais heureusement, nous sommes fondamentalement libres. Et notre volonté, qui est le reflet de notre liberté, est appelé à discerner à chaque instant, non pas une fois par jour ou une fois par semaine, à chaque seconde, nous sommes appelés à discerner entre le bien, le mal, la vie, la mort. La liberté de l'homme, voilà un bien vaste sujet, qui a fait couler beaucoup d'encre et malheureusement aussi beaucoup de pleurs et beaucoup de sang au cours de l'histoire. Et cette liberté, justement, elle est ressentie comme un bien infiniment précieux. C'est ce qui nous fait réellement être homme, être humain. On ne peut imaginer d'humanité véritable sans liberté. Grégoire de Nyssa nous dit « Celui qui a créé l'homme ne peut l'avoir privé du plus beau et du plus précieux des attributs, la capacité de se déterminer soi-même, la liberté. » Et l'évêque Callistus Ware, cherchant à définir, si on peut dire, à contempler en tout cas, ce qui constitue l'image divine en nous, trouve dans la liberté la meilleure façon d'approcher cette image. Et il dit « Cette liberté donnée par Dieu à chaque personne humaine est un thème majeur de l'anthropologie des pères. Tout le monde aspire à la liberté, C'est une des recherches les plus fondamentales de l'homme. On est prêt à mourir pour la liberté. Cet instinct fondamental, ce désir de liberté, est lié à l'image. Dieu, par excellence, est libre. La liberté est un de ses attributs fondamentaux. C'est presque, dit l'archimandrie de Siméon, qui a succédé au père Sophronie, au monastère de Maldon, c'est presque un nom de Dieu, la liberté. Il a créé l'homme à son image, donc libre, et cet instinct de liberté se trouve au fond de l'homme. Et pourquoi l'homme est-il libre? Mais bien sûr parce que Dieu crée l'homme pour l'aimer, pour l'amour. Et on ne peut imaginer un seul instant un être appelé à vous aimer qui ne soit pas libre, que ce soit un ange ou un homme. Un être créé qui serait dépourvu de liberté ne serait qu'une marionnette, sans aucune prise sur son destin. Or, nous savons que Dieu aime l'homme par-dessus tout, et nous sommes incapables d'imaginer qu'il puisse nous contraindre, nous forcer à l'aimer. Nous sommes donc totalement libres d'aimer Dieu ou de le rejeter. Comme dit saint Irénée, Dieu, ou la lumière, dit-il, ne subjugue personne de force. La violence ne se tient pas aux côtés de Dieu, dit-il. On ne peut évidemment concevoir une véritable relation d'amour, ni même d'amitié, dont la liberté serait bannie. Imaginez-vous qu'on vous impose vos amis. Vous ne pouvez pas les choisir. Voilà, celui-là, c'est ton ami, celui-là, celui-là. Même si vous n'avez aucun atome crochu, ben non, vous n'êtes pas libre de choisir vos amis. Alors, plus fondamentalement, l'amour, Dieu, peut-on imaginer que l'homme soit un esclave, un serviteur, et que Dieu soit une espèce de tyran, de potentat, de Baal, de statue en or, de veau d'or, devant lequel on serait forcé de s'incliner? Ben non, pas un seul instant. Père Alphonse disait, pour résumer un peu ceci, la volonté de Dieu ne peut se faire qu'à travers des cœurs qui librement y consentent. Il n'y a pas d'amour obligé. Dieu respecte notre liberté et c'est par elle que nous devenons hommes. L'exercice de notre liberté, de notre volonté, est l'essence même de notre chemin d'hominisation et de déification. L'exercice de notre liberté est l'essence de notre chemin d'hominisation, devenir homme, et de déification, devenir Dieu. Mais on peut se demander de quelle liberté il s'agit. Parce que vous le savez, la liberté est une notion bien ambiguë. Et pour nous faciliter l'approche, je distinguerai la liberté extérieure de la liberté intérieure. La liberté extérieure désigne notre capacité de choix dans la vie quotidienne. Et elle est concrétisée, cette liberté si précieuse dont on a beaucoup parlé il y a peu de temps, dans ce qu'on appelle les libertés fondamentales, consacrées dans les textes, la Constitution, la Charte européenne des droits de l'homme, etc. Donc c'est la liberté d'expression, la liberté de pensée, de circulation, de religion, de culte, etc., etc. Ça c'est la liberté extérieure. La seconde liberté est celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la liberté intérieure, spirituelle. Et pour bien percevoir la différence entre ces deux libertés et montrer qu'elles ne coïncident pas du tout, et peuvent être même antinomiques, je vous suggère de penser aux personnes qui s'enferment dans une petite cellule pendant des années, qu'on appelle les reclus, ou bien encore aux moines qui acceptent de vivre dans une petite cellule, sans aucun charme, ou dans une grotte inaccessible et parfois humide, aux stylites qui sont perchés sur une petite surface de 1 ou 2 mètres carrés et qui passent là des années. Et ces personnes sont-elles libres ou pas? Extérieurement, il n'y a pas pire claustration que ces personnes qui vivent dans des tout petits espaces dont ils ne peuvent pas sortir, et qui pourtant sont d'une liberté intérieure extraordinaire, rayonnante. C'est l'état d'âme, par exemple, qu'exprime le Staret Silouane lorsqu'il écrit J'aime beaucoup cette phrase. Il est maintenant la quatrième heure de la nuit. Je suis assis dans ma cellule comme dans un palais, dans la paix et l'amour. Et le père Sophronie exprime la même chose lorsqu'il dit « Un petit coin dans ma cellule me suffisait pour embrasser le monde entier dans ma prière. » Et je ne sais pas si vous avez lu l'idiot de Dostoïevski, il y a la belle figure de l'idiot, le prince Mouchkine, dit « Il m'est apparu que l'on peut vivre une vie sans bornes, même dans une prison. » Et Paul Evdokimov en fait ce commentaire que je trouve pénétrant. « La prison rétrécit les espaces infinis du monde jusqu'au minimum des besoins humains et contribue à cette pénétration à l'intérieur de soi, dans cette profondeur où le principe inaccessible se révèle. » Contraste donc saisissant entre l'enfermement extérieur et l'espace intérieur qui se déploie. Et j'ai trouvé un autre passage très émouvant dans les frères Karamazov. Vous savez qu'un des trois frères s'appelle Dimitri, Missia, et qui est un frère débauché qui est arrêté à la fin et qui est accusé du meurtre de son père, le père Karamazov, qui est un fameux débauché lui aussi. Et Missia, lui, est un être traversé par ces deux courants contraires que nous avons évoqués tout à l'heure, le courant divin et le courant démoniaque. Et malgré sa déchéance et ses chaînes, parce qu'il est enchaîné, il va passer en procès, il perçoit la lumière du Christ. Manifestant la profonde liberté intérieure qu'il éprouve, il dit « Je suis maudit, vil, dégradé, mais je baise le bas de la robe où s'enveloppe mon Dieu. » Je marche sur la route diabolique, et pourtant je suis ton fils, Seigneur, et je t'aime. Je ressens la joie sans laquelle le monde ne pourrait subsister. La liberté dont il est question, dont je voudrais vous parler aujourd'hui, est donc d'ordre spirituel. Elle désigne la faculté de l'homme de choisir entre ce qui donne la vie, c'est-à-dire ce qui rapproche de Dieu, et ce qui l'en éloigne. Ce qui peut le détourner, ce qui peut le conduire jusqu'à la mort, en passant par l'absurde, le néant, la solitude. Et le Deutéronome, dans un passage que l'on cite parfois dans les lectures liturgiques, le dit de manière très ramassée. Tellement ramassée qu'on peut croire que c'est caricatural, exagéré, et pourtant c'est bien de ça qu'il s'agit. Vois, c'est Dieu qui s'exprime à Moïse, vois. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La liberté, bien sûr, on le dit déjà de manière implicite depuis quelques instants, n'est pas sans risque. Et nous l'avons déjà dit à différentes reprises, Dieu prenait un fameux risque en donnant la liberté à l'homme. Non seulement à l'homme, mais aux anges, en dotant ces créatures de la faculté de choisir. Ce qui rend notre liberté intérieure et notre vie spirituelle bien inconfortable. Parce que nous sommes placés en face de responsabilités qui souvent nous paraissent trop lourdes à porter. Déjà dans l'Antiquité, à l'époque de Saint-Irénée de Lyon, c'est-à-dire au IIe siècle, des gens se demandaient pourquoi Dieu avait donné à l'homme la liberté et considéré que ce don était une imperfection. Une imperfection parce que nous pouvons choisir le mal comme nous pouvons choisir le bien. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas rendu l'homme parfait dès le commencement? Se demandaient les gens dès cette époque ancienne. Et c'est exactement, à nouveau dans Dostoïevski, le débat que nous trouvons dans la fameuse légende du grand inquisiteur. Vous avez lu les frères Karamazov. Et au cœur de ce grand roman, il y a ce que Dostoïevski considérait comme le cœur de son roman, c'est-à-dire la chose la plus forte, la plus poignante. Il invente un personnage qui s'appelle l'inquisiteur, et même le grand inquisiteur, qui met le Christ en prison et qui va lui reprocher des choses fondamentales. L'inquisiteur reproche au Christ d'avoir confié à l'homme cette faculté redoutable que, d'après l'inquisiteur, l'homme est incapable d'exercer à bon escient, c'est-à-dire la liberté. Comme un peu si on confiait une arme à feu à un petit enfant qui est privé de discernement. Et la liberté, dit le grand inquisiteur, est un fardeau insupportable pour l'homme. En fait, l'inquisiteur dit, l'homme est en quête du bonheur et veut le trouver par la voie la plus facile, la plus confortable possible, parce que l'homme est avide de sécurité. Il n'y a, dit-il, rien de plus séduisant que le libre arbitre, mais aussi rien de plus douloureux. Tu, et il s'adresse au Christ, tu as accru la liberté humaine au lieu de la confisquer. Et tu as ainsi imposé pour toujours à l'être moral les affres de cette liberté. Inutile de dire que l'inquisiteur a une très piètre opinion de l'homme. L'homme est un être médiocre. Il écrit, l'homme est plus faible et plus vil que tu ne le pensais. Tu te faisais une trop haute idée des hommes, tu as trop exigé de lui, toi qui pourtant, soi-disant, l'aimais plus que toi-même. En l'estimant moins, tu lui aurais imposé un fardeau plus léger. On peut mieux exprimer ce débat intérieur entre la liberté difficile, et l'esclavage, mais l'esclavage facile, confortable. Et donc l'inquisiteur voudrait purement et simplement supprimer cette liberté qu'il juge insensée. Et son projet est terre à terre. Pourquoi faut-il faire miroiter aux yeux de l'homme un bonheur dans l'au-delà, alors qu'il n'y a que l'ici-bas qui compte? L'homme est fait pour vivre sur terre, et même de manière terre à terre, dit-il, dans une servitude somnolente, irresponsable. Qu'avons-nous besoin de l'au-delà, dit-il? Nous sommes bien plus humains que toi. Nous aimons la terre. J'aime l'humanité plus que toi, dit-il au Christ. Et il affirme, le grand inquisiteur, nous résoudrons tous les cas, et ils accepteront notre décision avec allégresse, car elle leur épargnera le grave souci de choisir eux-mêmes librement. Voilà. Le paradis sur terre, mais le paradis dirigé par des personnes tyranniques qui décident à la place de l'homme ce qui est bon pour lui. C'est vraiment un débat qui mérite réflexion. Il peut sembler théorique ou excessif, mais ne nous est-il pas arrivé au fond de nous-mêmes de souhaiter d'être un peu moins libre, un peu moins responsable, voire pas du tout? C'est-à-dire que la chute n'ait pas eu lieu, que l'homme ne soit pas tout à fait libre de choisir, puisque nous pouvons faire de mauvais choix, et nous le faisons très souvent. Que le péché ne puisse pas exister, aucune séparation avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dès le départ, et nous restons comme des bébés sur le sein de leur mère. C'est-à-dire dans une attitude confiante et inconsciente. Nous ne sommes pas appelés à choisir. Nous sommes immergés dans la fusion maternelle. Et effectivement, la liberté exige un effort, et parfois un gros effort, pour être mise en œuvre. Nous trouvons la première illustration de ce débat fondamental autour de la liberté dans la Genèse. Le récit du chapitre 3 dans la Genèse, ce n'est que cela. Vous savez que l'homme est placé, la femme, dans un jardin où notamment sont deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Eh bien, l'arbre de vie, c'est l'arbre où l'homme se nourrit, mais de manière inconsciente, à la vie divine, comme un bébé qui tète sa mère. Et l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de l'épreuve. Dieu va créer Adam et Ève libres, et va leur demander d'exercer cette liberté, c'est-à-dire quelque part de se détacher de l'inconscience de l'arbre de vie qui les nourrit, pour choisir eux-mêmes librement leur destin face à l'arbre de la connaissance. La décision appartient à l'être humain. Choisir entre la vie divine, mais de manière inconsciente, ou choisir la vie divine ou quelque chose d'autre dans l'arbre de la connaissance. Ce qui est mis en lumière ici, et ce qui est important, c'est que Dieu fait prendre conscience à l'homme, jusque-là inconscient, qu'il est doté, d'une capacité de choisir, en manger ou pas, c'est un récit bien entendu imagé, symbolique, mais Dieu aussi le met en garde contre le mauvais choix. Attention, si tu n'écoutes pas le conseil divin, tu peux en mourir. L'homme a donc bien grandi en quelques versets. Se nourrissant inconsciemment de l'arbre de vie, il est invité à devenir conscient, c'est-à-dire libre. C'est l'image même de notre vie spirituelle. Et nous voyons également, comme dans notre vie spirituelle, rapidement dans le récit, intervenir le personnage, le perturbateur qui vient gâcher un peu les choses, le tentateur, le père du mensonge, comme l'appelle le Christ, le serpent, comme le dit la Genèse, Satan. Et donc nous retrouvons ici, dès le départ de la Bible, où nous trouvons plutôt ce combat fondamental dont je vous parlais tout à l'heure. Alors l'homme a la liberté d'écouter Dieu, de lui faire confiance, ou de choisir une autre voie. Et cette autre voie, elle est clairement décrite dans la Genèse, de manière admirable, en très peu de mots. Vos yeux s'ouvriront, dit le diable, le tentateur, et vous serez comme des dieux. Il ne dit pas vous serez Dieu, vous serez comme des dieux. Et toute la différence est là, dans le comme. Le mot comme est important parce qu'il ne s'agit plus d'être déifié par l'amour de Dieu lui-même, mais de singer Dieu, d'être comme lui, mais sans lui. L'homme peut être animé par ce que Evdokimov appelle la concupiscence du divin. C'est-à-dire que l'homme n'aime plus Dieu lui-même, mais l'idée de Dieu. Ou plutôt, soyons encore plus précis, la puissance divine, qu'il croit pouvoir atteindre par ses propres forces. Evdokimov écrit ceci, « L'amour pour Dieu a dégénéré en concupiscence du divin qui fait dire « Vous serez comme des dieux. L'élan d'amour orienté vers l'être de Dieu change d'objet, dégénère, c'est une déviation, en concupiscence orientée vers l'idée du divin, vers la possession des attributs de Dieu. L'idée du divin se substitue à l'être de Dieu. » Nous voyons vraiment ici la racine de ce que nous appelons le péché, cette déviation. Au lieu d'aller vers Dieu, nous allons vers l'idée de Dieu, être comme Dieu. Il ne s'agit pas du tout ici, comme vous le savez bien, d'une histoire ancienne, d'un récit mythique dépourvu de signification et de portée concrète dans notre vie, parce que la Bible parle de nous dans notre réalité quotidienne. Et très souvent, soyons lucides, nous ne souhaitons pas vivre de la vie de Dieu. Nous tenir vraiment en sa présence, c'est-à-dire dans une attitude humble, d'adoration, de tout recevoir de lui, dans un élan d'amour, de reconnaissance. Mais l'homme, très souvent, veut voler le feu divin. Rappelons-nous le mythe de Prométhée, aller voler le feu divin. C'est-à-dire d'être comme Dieu, mais sans Dieu. C'est la description d'un état intérieur que nous connaissons. Et combien l'homme est prêt à tout, c'est-à-dire à tromper, à voler, à tuer, à torturer, à saccager, à développer une puissance proprement démoniaque, délirante, pour affirmer son pouvoir sur les autres, sur la nature, sur le cosmos, pour satisfaire une avidité sans limite. Nietzsche, par exemple, est un bon représentant de cette tendance de l'exaltation de la puissance humaine. Et la puissance humaine recherchée pour elle-même, non pas pour posséder, non pas pour être beau, non pas pour être admiré, mais la puissance pour la puissance. Je vous ai donné une citation que je ne vous lis pas ici, que vous trouverez dans les feuilles. Rose ou saumon, la puissance pour la puissance. Et cette puissance pour la puissance, nous la retrouverons non pas dans l'esprit de l'homme, mais dans le psychisme humain. Le drame de l'homme, le plus souvent, c'est d'avoir oublié qu'il est corps et âme et esprit. Et que notre esprit présente une caractéristique, c'est d'être absolu. Nous sommes habités par une soif d'absolu qui se loge dans notre esprit. Mais si nous oublions notre esprit, ce glissement se produit entre l'âme et l'esprit. Et l'absolu de l'esprit, qui doit se nourrir de Dieu, il est appelé à se nourrir de Dieu, c'est sa nourriture, se glisse dans l'âme. Et l'âme, elle, ne va pas se nourrir de l'esprit, mais va se nourrir des réalités que nous connaissons tous, et qui sont très séduisantes, et d'ailleurs très belles aussi. L'homme détourne sa soif d'absolu dans l'âme, et le psychisme alors se dilate à l'infini, ivre de lui-même. Dans ce que nous appelons les passions multiples, ça c'est le côté négatif, mais aussi côté positif, dans de multiples réalisations merveilleuses qui sont artistiques, scientifiques, humanistes. Il est évident, bien sûr, et vraiment j'y insiste, il ne s'agit pas du tout de discréditer notre âme. Notre âme est une partie de nous-mêmes qui est belle et féconde, magnifique, qui produit des œuvres d'art sublimes, qui produit la science, qui permet à l'homme d'explorer les secrets de l'univers. L'intelligence humaine est prodigieuse. Mais si elle n'est pas nourrie par l'esprit, notre âme tourne sur elle-même, comme un serpent qui se mord la queue. Elle est incapable par elle-même, surtout, et voilà la grande question fondamentale, l'âme est incapable par elle-même d'accéder à la présence divine, sans l'aide de l'esprit. Ce ne sont ni les sentiments caractéristiques de l'âme, ni les émotions caractéristiques de l'âme, ni les idées caractéristiques de l'âme, ni notre intelligence rationnelle qui peuvent nous faire connaître Dieu. De plus, l'âme qui a dévié pour elle-même la puissance de l'esprit se nourrit d'elle-même et souvent des passions qui l'habitent et qui la conduisent à son insu. Et nous touchons ici un peu plus loin, j'avance, à une grande question qui travaille toute l'humanité, c'est la question du mal. Grande et lancinante question du mal. Et à nouveau, je prendrai pour guide, je ne sais pas à quelle heure je dois m'arrêter. 11h15, ça va, je n'ai plus que 3 pages. Je prendrai pour guide Evdokimov, qui lui-même a écrit un livre très profond, très magnifique, pas facile, sur Dostoïevski et le problème du mal. Ça s'appelle Dostoïevski et le problème du mal. C'est malheureusement un livre qui n'est plus édité à l'heure actuelle, mais qu'on trouve d'occasion. Si vous faites des recherches sur Internet, il y a encore moyen de le trouver, je peux vous le prêter, j'en ai un exemplaire. Alors, vous savez que tous les romans de Dostoïevski tournent fondamentalement autour de cette question du mal. Dostoïevski met en scène des personnages complètement, je dirais, déjantés, complètement désordonnés, mais dans tous les sens, aussi bien dans le bien que dans le mal. Ce sont des âmes qui sont dans un tourment incroyable et qui sont portées à des choses admirables et à des choses épouvantables. Et même dans la même personne parfois. Comme nous le voyons par exemple dans le personnage que je vous ai cité de Dimitri, un des 3 frères Karamazov. Alors Dostoïevski définit le mal comme la volonté de l'homme ou de l'ange d'exister par soi et pour soi, exister par soi et pour soi, c'est-à-dire de devenir à soi-même son propre univers, son propre maître, son propre Dieu. C'est au fond, exactement, en peu de mots, la définition même de l'orgueil, exister par soi, pour soi. Nous y reviendrons plus longuement. sous l'influence pernicieuse de Satan, et qui est une influence d'autant plus sournoise et subtile qu'elle est cachée. L'influence de Satan qui veut égarer l'homme loin de Dieu, c'est-à-dire le détruire. L'être humain peut en arriver à oublier Dieu, à l'ignorer, nous le savons, et même à le rejeter, et même à le considérer comme un ennemi. Dieu devient l'ennemi de l'homme. Ou alors, ce qui est plus pratique, on le considère comme inexistant. Dieu est mort, proclame Nietzsche et d'autres, comme Freud, Marx, etc., qu'on a appelés les maîtres du soupçon. Pas besoin de remonter jusqu'à la Genèse pour s'apercevoir que Dieu tient peu de place souvent dans la vie des hommes. Alors la question, quelle place tient-il dans ma vie? C'est bien la question du jour. Et je ne dis pas dans votre vie, hein, je pose vraiment la question dans ma vie. L'homme, après avoir oublié Dieu, que peut-il faire? Eh bien, il n'y a plus qu'une solution, se tourner vers soi-même, vers lui-même, c'est-à-dire devenir ma propre référence, ma propre idole. Et Luc Ferry, à nouveau, j'aime bien ce philosophe, il est très pédagogique, il explique bien les choses. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'homme-Dieu ». Mais ne croyez surtout pas qu'il parle du Christ dans l'homme-Dieu. Il parle de l'homme auto-déifié. Parce qu'il dit « comme Dieu n'existe pas, il n'y a plus qu'une possibilité, c'est de trouver en l'homme sa propre transcendance ». Et c'est assez beau ce qu'il écrit, il est pour l'humanisme transcendant, dit-il. Mais pas pour un humanisme qui se relie au monde divin, mais un humanisme qui se relie à l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour abstrait, qui peut se manifester, comme nous le savons, dans la vie de tous les hommes, qu'ils croient ou non en Dieu. L'homme-Dieu, mais sans Dieu. Et dans l'individualisme contemporain, qui est poussé actuellement jusqu'au bout de sa logique, peut-on dire, où nous savons que l'individu est devenu tout-puissant, et que, de manière, dans notre théologie, nous opposons l'individu à la personne. C'est deux choses non seulement différentes, mais absolument opposées, contraires, contradictoires. Autant l'individu a pour référence lui-même, autant la personne est ouverte vers l'autre personne. La personne, on pourrait la remplacer par ouverture totale, relation totale. L'individu, au contraire, il amasse. Vous savez, il est comme une araignée qui rassemble au centre de sa toile, qui attrape tout ce qui est possible pour se gonfler. Et je vous invite à lire quelque chose, un texte que je ne vous cite pas ici, il est un peu trop long, il fait pratiquement une page, si vous avez le courage, mais c'est vraiment bien, de lire le texte Gilles Lipozewski, qui est un philosophe contemporain et qui décrit cet individualisme qui gangrène notre société postmoderne et les relations sociales. On peut, à la lecture du texte, se dire « bon, c'est un peu excessif ou exagérément pessimiste », mais je crois que c'est un bon constat, une bonne analyse, un bon diagnostic de notre société contemporaine individualiste. Et bien sûr, à nouveau, il faut mettre des nuances. Il est évident que beaucoup de personnes sont responsables, engagées, même sans Dieu, et qu'ils sont sensibles à la souffrance psychique, physique, humaine, et s'engagent de manière qu'elles soient croyantes, agnostiques, athées, etc. Qu'il y a beaucoup de braves gens et beaucoup d'humanistes. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Nous nous plaçons ici dans une perspective, non pas éthique, humaniste, ce qui est très bien, mais nous sommes dans une autre perspective légèrement différente, qui est spirituelle, une approche ontologique de notre liberté intérieure. Et nous voyons souvent que dans l'individualisme, nous aboutissons à quoi? Eh bien, à la tristesse, à l'absurdité, à la désespérance, à un vide existentiel, une absence finalement de sens profond à la vie, une angoisse qui sourd au-dedans de notre âme. Comme l'écrit Paul Evdokimov, j'aime beaucoup cette phrase qui est très courte. l'idée de Dieu disparaît et il subsiste une infinie tristesse. L'idée de Dieu disparaît et il subsiste une infinie tristesse. Et Dostoïevski met en scène, lui, au-delà de cet individualisme, des choses encore bien plus fortes et plus désordonnées. Ce sont des personnages, comme je vous le disais, qui sont en proie à leurs désirs désordonnés. Ce sont des débauchés, des meurtriers, qui ont oublié la voie divine et qui font à Dieu un procès impitoyable. Nous avons pensé dans les possédés. Je vous conseille, enfin vous connaissez tous, pas Evdokimov, mais Dostoïevski, mais relisons-le, c'est assez dur. Kirillov, Stavrogin dans Les Possédés, Dimitri, Ivan Karamazov, Raskolnikov, Rogojin, les frères Karamazov, l'idiot, crime et châtiment. Ce sont des êtres mis en scène qui sont possédés par leur passion et leurs idées destructrices. Des personnages complètement déboussolés, de manière exacerbée mais plausible. L'histoire en est pleine. Et qu'est-ce que nous retrouvons chez ces personnages? Eh bien, une volonté de puissance phénoménale. Ce sont des êtres qui, le plus souvent, nient l'existence de Dieu. Je vous citerai, par exemple, Kirillov et Ivan Karamazov. Ivan Karamazov dit à son frère, le plus jeune, là, dont j'ai oublié le nom, comment s'appelle-t-il encore?
Alyosha.
Puisque Dieu et l'immortalité n'existent pas, dit-il. Il est permis à l'homme nouveau, ce n'est pas l'homme nouveau de Saint Paul, hein, de devenir un homme-dieu. Fût-il seul au monde à vivre ainsi, il pourrait désormais d'un cœur léger, tu parles, entre parenthèses, d'un cœur léger s'affranchir des règles de la morale traditionnelle auxquelles l'homme est assujetté comme un esclave. Partout où je me trouverai, dit Ivan, ce sera la première place. Tout est permis, un point c'est tout. Et l'archimandrite Siméon, dont je vous parlais tout à l'heure, dit « Dans sa soif luciférienne d'absolu, l'homme moderne tend à abolir toute limite. » Nous connaissions un garçon très sympathique d'ailleurs, dont la devise était « Nos limites ». Pas de limites. Tout ce que je peux faire, je peux le faire, puisque je suis fondamentalement libre. Je continue ici la citation. Il se pose lui-même comme seule et unique référence et exalte la transgression. On fait de la transgression une règle pour aboutir au « tout est permis » d'Ivan Karamazov. Et puis au « tout est possible » de la technoscience. Rappelons-nous les débats éthiques sur la vie, la bioéthique, etc. Et Kirillov, dans Les Possédés, dit « si Dieu est... toute la volonté lui appartient, il doit bien le reconnaître. Et en dehors de sa volonté, dit-il, je ne puis rien, ce en quoi il se trompe, puisque nous avons vu que l'homme est fondamentalement libre. S'il n'est pas, si Dieu n'est pas, alors la volonté tout entière m'appartient. Et je dois proclamer ma volonté propre. L'attribut de ma divinité, dit-il, c'est ma libre volonté. Vous voyez, l'homme prend la place de Dieu. Et chez Kirillov, de manière absurde, insensée, cette prétendue liberté sans limite va jusqu'au suicide. Kirillov met fin à ses jours uniquement pour démontrer qu'il est libre. Sa volonté de toute puissance débouche sur le néant et l'absurdité. Vous trouvez ça dans Les Possédés. Kirillov dit « Je me tue pour prouver mon insubordination et ma liberté nouvelle. Je dois me brûler la cervelle pour prouver que la manifestation suprême de ma liberté, c'est le suicide. » L'archimandrite Siméon commente « Kirillov se tue pour ravir le feu du ciel. » Pardon, je commence à bourbeler, il sera bientôt temps d'arrêter. « Ravir le feu du ciel », vous vous rappelez, je vous disais, c'est l'attitude de Prométhée qui va ravir le feu de la divinité. C'est l'individu qui s'absolutise, se divinise lui-même. Le Christ, au contraire, se vide de sa divinité, s'anéantit. comme le dit l'Épître aux Philippiens. Il se sacrifie pour le salut des autres. Exactement l'attitude opposée. Nous avons donc un personnage, soi-disant fondamentalement libre, Kirillov, qui met fin à sa vie pour se prouver à lui-même qu'il est un Dieu. Et nous avons un Dieu qui s'anéantit pour l'amour de l'homme. Et qui, lui, le Christ, est un être fondamentalement libre. Un homme se tue pour se diviniser, renversement saisissant de l'amour sacrificiel du Christ, qui donne sa vie pour que les hommes puissent vivre. Voilà, je suis content, je suis dans les temps, et je vous livre quelques questions que vous... je vous les distribue ici. Pour que ça devienne un peu plus pratique, j'ai imaginé des questions que vous lisez, que vous ne lisez pas, évidemment libre à vous. Vous répondez, vous ne répondez pas, et je vous conseille surtout de répondre ou d'examiner, de contempler les questions qui vous embêtent le plus. Il y en a qui ne vous diront rien, et il y en a que vous direz, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette question, ça je suis incapable d'y répondre, ou bien elle me dérange, eh bien celle-là, faites-la vôtre pendant ce temps que nous aurons aujourd'hui, mais vous aurez aussi d'autres questions après le second exposé tout à l'heure. Alors la première question, c'est plutôt une suggestion. C'est celle de répéter lentement à plusieurs reprises et en me laissant saisir par chacun des mots cette demande « Que ta volonté soit faite ». Vous savez que dans le Notre Père, « Que ta volonté soit faite aujourd'hui, c'est-à-dire comme au ciel » et tout passe à la vitesse du TGV. Eh bien ici, centrons-nous sur la phrase et laissons-la descendre en nous « Que ta volonté soit faite ». Et faites-la sur tous les tons, sur toutes les gammes, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté arrive, que ta volonté soit faite en moi, que ta volonté soit faite, se réalise sur la terre comme au ciel. Laissez cette merveilleuse phrase descendre en vous. Que se passe-t-il quand je dis lentement cette phrase ? Rien ? Ou bien une révolte ? Ça me dérange ? Un questionnement ? Est-ce que je sens un désir profond, une acceptation, un abandon? Prenons le temps de contempler le sentiment qui apparaît, l'indifférence, ou le trouble, ou la peur, l'enthousiasme, la joie. Est-ce que je ressens sa volonté plus importante, comme étant plus importante que la mienne? Ou est-ce l'inverse? Est-ce que je considère ma volonté comme bien plus essentielle que la sienne? Ou est-ce qui monte en moi le désir d'unir, d'uniformiser sa volonté et la mienne? Ai-je le désir de connaître sa volonté pour moi dans ma vie concrète? Pas simplement pour l'avenir du monde, l'univers, les galaxies, mais moi. Qu'est-ce qu'il veut dans ma vie concrète? Comment connaître sa volonté? Et surtout, ai-je le désir de la connaître? Ai-je vraiment le désir de me laisser guider par l'Esprit Saint et d'accomplir la volonté du Père? Ai-je éprouvé la difficulté d'être libre, ou pas du tout, dans mes pensées, dans mes choix de vie, dans mes réactions, mes relations, mes comportements? Mais essayons d'aller en profondeur dans cette question. Est-ce que je ressens ma liberté comme un poids, dont j'aimerais être soulagé, comme je vous le disais tout à l'heure avec le grand inquisiteur, ou bien comme un bien très précieux, un cadeau de Dieu? Voilà, la fin du premier exposé. Je pense que nous nous retrouverons maintenant pour la méditation. Nous faisons une pause thé. Oui, et puis nous venons à la méditation à 11h40.